Chers auditeurs, bonjour. Le pasteur Gilberto Araudio nous conduit aujourd'hui dans la quatrième partie de la série d'émissions intitulée « Face à la crise ». Je lui laisse la place en vous souhaitant une bonne écoute.
Chers amis, bonsoir à tous. Nous sommes très contents et nous avons le plaisir de vous revoir encore ce soir. J'étais un peu peureux parce que je disais avec la fraîcheur là et la pluie qui tombe, est-ce qu'ils seront ici? Et nous sommes très contents que vous avez laissé que Dieu vous conduise ici ce soir encore. Et nous sommes persuadés que ce soir, comme auparavant, le Seigneur vous bénira. Donc, je vous félicite d'avoir choisi ce soir de venir ici, même que vous allez écouter un pasteur brésilien en train d'essayer de parler français au lieu de voir, n'est-ce pas, à la télé, les feuilletons brésiliens. Donc, je vous félicite pour ça. Nous sommes très contents et reconnaissants parce que le Seigneur est en train de nous bénir et à chaque jour, nous sommes en train d'apprendre davantage à propos des paroles, des mots d'espoir dans ce monde où nous sommes toujours à la face devant nous des défis. Alors, pour ce soir, voilà les titres relatifs ou absolus. Comme vous le savez très bien, aujourd'hui, la nouvelle vague, c'est la mode, croire à l'idée de que tout ce qui existe, tout ce qui se passe, c'est relatif, il n'y a plus rien d'absolu. La vérité, c'est quoi? Faux et vrai, bon et mal, mauvais, n'existe plus. Tout cela dépend. Tout cela dépend de la culture dans laquelle vous êtes né, des circonstances sur lesquelles vous vivez. Et aujourd'hui, laisse-moi vous dire que même les dirigeants des pays commencent à se faire des soucis par rapport à cette pensée post-moderniste qui envahit le monde. Tout récemment, j'ai rendu visite au président de la République du Mozambique, président Guebuza. Et lorsque nous étions en train de causer pendant presque une heure, il a dit, « Pasteur, il faut que vous nous aidiez. » Parce qu'il y a des crimes, il y a des choses qui se passent dans nos pays aujourd'hui qu'il y a 10 ans de cela n'arrivaient pas. Mais puisque les gens croient maintenant qu'ils sont permis à tout faire, les valeurs de la société sont en train de changer d'une telle sorte que nous sommes en train de vous supplier de nous aider à nous les gouvernements, à nous les institutions, les autorités, à trouver une solution à ces fléaux qui nous attaquent. Voilà que la conséquence de cette pensée commence même à davantage toucher les autorités et les pays dans lesquels nous vivons. Alors, posez-vous cette question ce soir. Êtes-vous une personne qui est pour la torture? Si je vous demande ce soir pour lever la main, combien ici sont en faveur, donnent tout leur appui, support pour la torture? Je ne crois pas que quelqu'un allait oser ce soir ici lever la main, n'est-ce pas? Mais aimeriez-vous torturer quelqu'un pour obtenir les informations que vous avez besoin? Est-ce que vous aimeriez, vous, mon cher ami, vous qui êtes en train de m'écouter, aller pour obtenir information de quelqu'un, les torturer? Certainement, vous allez dire, pas du tout, pasteur, c'est, n'est-ce pas? Si vous lisez un peu l'histoire, vous allez déjà à peu près deviner là où je suis en train d'aller. Il y a quelque temps de cela, un gouvernement qui a toujours voulu, n'est-ce pas, être du côté de ce qui défend les droits des hommes, il a commencé à pratiquer certaines choses qui ont quand même surpris le monde. Mais ils se sont dit, nous avons besoin de torturer pour obtenir, pour gagner les informations, pour protéger notre nation. Alors, pour vous aider à réfléchir davantage, voilà un petit test. Mais si vous avez attrapé un terroriste, et ce terroriste va vous dire qu'il a mis une bombe dans un avion et qui doit exploser d'ici 2 heures avec 200 enfants dans cet avion. Et pour faire pire encore, et l'un de vos enfants, votre fils bien-aimé, est dans cet avion-là. Et vous avez maintenant ce terroriste devant vous. La question que je vous pose, allez-vous torturer ce terroriste afin de sauver ces 200 enfants, y compris votre enfant? Seriez-vous à l'aise à maintenant pratiquer la torture avec, n'est-ce pas, une bonne explication du pourquoi vous alliez le faire? Ou êtes-vous encore contre la torture? Vous voyez comment les choses commencent à devenir plus complexes et compliquées dans le monde aujourd'hui? C'est facile, n'est-ce pas, à dire non, ça c'est vrai, ça c'est faux, ça c'est bon, ça c'est mauvais. Mais le monde n'est plus comme auparavant. Les choses se compliquent. Il y a des nouvelles facettes de la chose. Et les gens, les dirigeants, les hommes sont maintenant en face de certaines réponses dont ils ont difficulté à répondre. Je crois que vous connaissez cette histoire ici. Pendant la guerre de l'indépendance en Algérie, entre 1954-1962, voilà que le président Charles de Gaulle a envoyé, n'est-ce pas, son armée, une partie, les parachutistes d'intervention en Algérie. Ils étaient donc dirigés par ce général Jacques Massu. Et qu'est-ce qu'ils ont fait en Algérie? Durant les années où ils étaient, n'est-ce pas, Massu et ses hommes ont pratiqué pas mal de choses qui les a maintenant fait penser davantage. Et en 2000, Jacques Massu a été amené devant le tribunal du droit des hommes pour répondre vis-à-vis des choses terribles qu'ils ont commises. Quelle était la réponse, l'excuse qu'il a utilisée? C'est celle que pas mal de gens disaient, comme disent les Américains, n'est-ce pas, the ticking time, bomb scenario. Ça veut dire, devant la circonstance, la situation, n'est-ce pas, il fallait tenir la discipline du pays, sinon il allait éclater, exploser. Nous avons été forcés à faire quoi? À faire tout genre, n'est-ce pas, de choses. Voilà le monde que nous vivons aujourd'hui. Ce n'est plus simple comme auparavant. Les choses n'étaient pas rouges ou vertes. Il y a entre les deux des couleurs que les gens ne savent plus identifier. Et ça, ça complique davantage. C'est ce que nous appelons aujourd'hui cette théorie, cette philosophie, postulat, donnez le nom que vous voulez, qui s'appelle relativisme et qui ça fait maintenant des éclats dans la société. C'est quoi le relativisme? Le relativisme est ce concept que certains éléments ou aspects de l'expérience ou de la culture sont relatifs à leur contexte historique ou culturel, c'est-à-dire dépendant de la situation dans laquelle vous vivez, la circonstance ou la culture dans laquelle vous avez été enlevé, ce qui est bon pourra être mal. Et ce qui est mal pourra être permissible. Donc nous écoutons et nous entendons cela de plus en plus. Et ça devient très difficile maintenant d'identifier pour tout le monde ce qui est faux de ce qui est vrai. Ce qui est bon par rapport à ce qui est mauvais, ce que nous ne devons pas faire et ce que nous acceptons comme un comportement normal. Donc, les valeurs de la société commencent comme, n'est-ce pas, du sable mouvant à être très difficile à identifier. C'est comme la mentalité postmoderne. Nous sommes arrivés maintenant à croire qu'il n'y a rien qui soit vrai, faux, bon ou mauvais, tout est relatif. Si on se sent bien, c'est ce qu'ils disent. Si ça marche, si ça, n'est-ce pas, ne touche personne, ne fait du mal à personne, alors, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et c'est ça qui commence, n'est-ce pas, à diriger la société aujourd'hui dans les affaires, dans les commerces, dans l'économie, partout. Ça, c'est la nouvelle philosophie qui est en train de colorer tout ce qui existe. Le relativisme s'oppose directement à l'un des principes de la loi de la rationalité, de la logique, c'est-à-dire la non-contradiction. Je vous donne exemple numéro 1. La vérité n'existe C'est quoi la vérité? La vérité, elle est dans l'esprit, la tête de tout un chacun. C'est toi qui choisis ce qui est la vérité. Il n'y a plus une vérité dehors de toi. Ce que ton esprit détermine comme étant la vérité, c'est ça le vrai. Il n'y a plus une vérité absolue au-delà de l'esprit humain. Voilà ce qu'ils disent. Numéro 2. Il n'existe aucun moyen de connaître la vérité. Il n'y a pas de la vérité et la vérité ne peut pas se connaître. 3. Il n'y a pas d'absolu. Mais tiens, voilà ce qu'ils vont dire. Tout est relatif. Mais si vous dites tout est relatif, vous êtes déjà en train d'établir un absolu. Vous voyez? Donc, cette théorie par soi-même, elle s'y contredit. Elle dit, il n'y a pas d'absolu. Tout est relatif. Mais quand je dis tout est relatif, qu'est-ce que je suis en train d'affirmer? Qu'il y a quelque chose qui est absolu. Mais il n'y a pas de cohérence dans cette pensée-là. Et malheureusement, ce relativisme, il va même sur le terrain religieux. Il commence même à faire son dégât dans l'aspect religieux. Si je vous pose aujourd'hui la question, combien, n'est-ce pas, y a-t-il d'églises chrétiennes dans le monde? Savez-vous? Est-ce que vous voulez essayer de trouver une réponse? Combien y a-t-il des églises chrétiennes dans le monde aujourd'hui? Registrées formellement, combien? 1000? Ouh là là, vous êtes trop économique là. Hein? Vous avez l'euro, hein? Soyons un peu plus généreux là. 2000? Oui, c'est un peu mieux, 2000. Pour rendre plus court, 33 000 églises. N'est-ce pas? Alors, quelle est-elle la vraie église? Les gens commencent à dire à la fin, pasteur, tous les chemins mènent à Rome. Ce sont les relativismes qui commencent là, n'est-ce pas? L'important, c'est que nous aimions Dieu. L'important, c'est qu'il est dans l'esprit, le cœur de tout un chacun. Vous voyez comment la philosophie, les postulats, les hypothèses qui commencent maintenant à souffler dans le monde pénètrent aussi dans le monde religieux. Ils utilisent la même pensée. Où est la véritable Église? À la fin, chacune utilise la Bible comme la vérité, disent-ils. Est-ce que vous avez par hasard déjà passé devant une église où là, devant c'est écrit, ici, il n'y a pas la vérité? Connaissez-vous une église qui a déjà mis une pancarte, un panneau, en disant, s'il vous plaît, si vous entrez dans notre église, vous êtes en train d'y rentrer dans l'église qui n'est pas la vraie. Avez-vous trouvé déjà? Alors, comment identifier? Les problèmes, ce sont les différentes interprétations que chacune donne. Parfois, des petites variations. Et ça fait déjà une nouvelle église, puisque nous pensons un peu différemment. Et comment l'identifier? C'est là le problème. Alors, je vais faire une petite expérience avec vous aujourd'hui pour voir est-ce qu'il y a ou pas des absolus ou des relativismes. Je vais vous demander d'être généreux avec moi. Vous allez fermer les yeux. Et je vais vous demander de compter 1, 2, 3 avec moi. Et je vous demanderai de, avec votre doigt, faire un exercice. N'est-ce pas? Vous allez lever les doigts et vous allez faire un exercice. OK? Dans une seconde. Êtes-vous prêt à m'aider ici dans cette expérience? Je suis le seul qui a le droit de rester avec les yeux ouverts. Vous allez fermer votre yeux. Vous allez faire comme ça avec les doigts et je vous poserai une question et vous allez m'aider. Je vais vous compter 1, 2, 3. 4. Et alors vous allez le faire. Pouvez-vous m'aider ça? OK, donc fermez vos yeux, levez vos doigts, et maintenant je vais que vous me disiez où se trouve le nord de l'île de la Réunion. 1, 2, 3. Dites-moi où il se trouve le nord. Ah, j'ai trouvé ça déjà. Merci. J'ai vu des gens qui pointaient vers ces côtés ici, d'autres qui pointaient vers ces côtés là, d'autres qui pointaient vers ces côtés là. Finalement, il y a ou il n'y a pas? Vous pouvez ouvrir vos yeux maintenant. Finalement, il y a ou il n'y a pas le nord dans cette île? Il y a ou il n'y a pas? Bien sûr qu'il y en a. Mais pourtant, chacun a fait quoi? N'est-ce pas? Pas mal d'entre vous a pointé vers ce côté-là. Il y a d'autres qui ont pointé ici. Il y a d'autres qui ont mis la direction. Mais quand nous prenons la boussole, quand nous prenons la boussole, est-ce qu'il n'y a pas où il y a un seul nord? Bien sûr. Dans la nature, partout, il y a des quoi? Des absolus. Et je vous donne encore un autre exemple. Je vais faire une promotion à ne pas rater aujourd'hui. Je sais que pas mal d'entre vous ont des membres de la famille à Paris, en France, et vous aimeriez bien les rendre visite. Mais les prix des billets, 800, 900 euros, c'est quoi ça? Donc, nous sommes en train d'inaugurer une nouvelle compagnie aérienne. Et cette nouvelle compagnie aérienne est prête à vendre les billets à 250 euros aller-retour à Paris. À ne pas rater, n'est-ce pas? Donc, voilà notre promotion d'aujourd'hui. Le nom s'appelle Air Relatif à la Réunion. Voilà la nouvelle compagnie aérienne. Et cette compagnie aérienne, elle a accepté la philosophie relativiste. Et les pilotes de cette compagnie sont tous convertis au relativisme. C'est-à-dire, chacun croit que le nord est là où il croit que le nord doit être. Chacun décolle comme il veut, au moment qu'il veut, n'est-ce pas? Il met combien d'essence il croit qu'il peut mettre dans l'avion pour arriver à Paris. Alors, êtes-vous prêt à acheter un billet cher Air Relatif? Bien sûr que non. Mais grâce à Dieu qu'aujourd'hui, malgré tout ce qui existe dans l'aviation, c'est une science quand même qui permet de connaître aux gens à quelle heure ils partent, où ils vont arriver. Ils sont assurés qu'il y a une loi, des règlements qui les permettront d'y arriver selon la proposition de la compagnie, n'est-ce pas? Imaginez maintenant si chacun allait piloter comme il voulait. Une fois, j'étais au Caire. Ah, je vous dis, je n'ai jamais vu dans ma vie des choses pareilles. Chacun conduit sa voiture vers là où il veut, à droite, à gauche. Les feux rouges ne signifient rien. Chacun fonce, chacun s'arrête, c'est incroyable. Devant cette situation, c'est la confusion. Pourquoi? Parce qu'exactement, tout est relatif. Alors, comment identifier ce qui est vrai du faux? Comment identifier les faux du vrai billet? Les savants qui étudient cela, ils ne prennent pas de temps pour identifier les faux, mais ils s'approfondissent plutôt en connaissant ce qui est vrai. Si nous voulons, parmi 33 000 églises, trouver quelle est celle qui est la vraie, à moins que vous ayez assez de temps, je vous propose de commencer numéro 1, 2, 3, 4, et jusqu'à ce que nous arrivions à 33 pour identifier la vraie. C'est ça que vous voulez le faire? Donc, au lieu de prendre notre temps pour chercher la fausse, qu'est-ce que nous devons le faire? Nous perfectionner dans le sens de connaître la vérité. Et où trouver la vérité? C'est la question. Alors, ce soir, pour gagner du temps, je vais vous donner les chapitres de la Bible, les noms du livre de la Bible, les chapitres, les versets. Mais je vais mettre aussi sur l'écran pour nous aider parce que ce n'est pas tout le monde qui a la Bible, donc tout le monde pourra les lire. Donc, Jean chapitre 17, verset 17, voilà ce que Christ il a dit. Sanctifiez-les par ta vérité, ta parole est... Ah, mes amis, il faut que nous comprenions qu'il y a encore aujourd'hui ce qui est absolu dehors nous-mêmes. Des choses qui pourront nous diriger, comme la boussole dirige vers le nord, pourront nous diriger vers la vérité de Dieu. Alors, l'Apocalypse, chapitre 12, verset 17, va nous aider davantage à identifier les vrais mouvements, les vrais peuples de Dieu. Voilà ce qu'il est écrit à la page 816, l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, au chapitre 12, verset 17. Qu'est-ce qu'il est écrit? Il dit là, et les dragons, j'ai mis une petite parenthèse neuve. Si vous ne savez pas qui est les dragons dans les livres de l'Apocalypse, allez vers le verset 9 et vous allez voir que là, il est écrit les serpents, les diables, n'est-ce pas? Les dragons. Donc, donne l'identification. Les dragons, c'est qui? C'est les diables. C'est l'ancien serpent qui a tenté Adam et Ève là dans le paradis. Donc, il dit là, et les dragons furent irrités contre la femme. Si le dragon est irrité contre quelqu'un, c'est quelqu'un, c'est bon ou mauvais? Puisque le dragon, c'est le diable. Et lui, il s'irrite avec quelqu'un. C'est quelqu'un avec qui il s'irrite. C'est bon ou mauvais? Bon, bien sûr, le dragon ne va jamais, le diable, s'irriter avec celui qui est mauvais comme lui. Ils sont des amis, n'est-ce pas? Donc, le dragon s'irrita contre la femme. Et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. Dans le langage apocalyptique, la femme signifie l'église de Dieu. Et le reste, ça veut dire la dernière partie. Quand, n'est-ce pas, maman est en train de couper les gâteaux. Et l'enfant, n'est-ce pas, il rêve avec son petit morceau. Elle dit, mon enfant, il faut aller vite parce qu'il n'y a que le reste du gâteau. Qu'est-ce qu'elle est en train de dire? Que la dernière partie du gâteau se trouve où? Encore là. Donc, le reste, c'est quoi? Les derniers morceaux. Si la femme, c'est l'église de Dieu, le reste, c'est qui? C'est les derniers morceaux. C'est le dernier peuple de Dieu sur la terre. Et ici, donc, il dit que le dragon fait la guerre contre la femme, l'église de Dieu, et surtout contre le dernier peuple de Dieu, le dernier morceau, la dernière église de Dieu. Et voilà que Dieu va l'identifier pour nous dans sa parole. Ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Selon la parole de Dieu, pour que nous puissions identifier la vérité, il est véritable, il faut trouver ceux qui gardent les commandements de Dieu. Alors, mes amis, nous devons comprendre que selon la parole de Dieu, il y a les faux, bien comme aussi les vrais. Et 1 Jean 3, 4 nous aide à comprendre cela. Si vous avez votre Bible à la page 806, vous pouvez là identifier. Quiconque pêche, dit la Bible, transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Ah, la Bible dit clairement qu'il y a ce qui est mauvais par rapport à ce qui est bon. Qu'il y a le faux par rapport au vrai. Il dit qu'il y a le péché. Le mal existe. Et le péché, comme nous l'avons vu hier et aujourd'hui, c'est quoi? C'est la transgression de la loi de Dieu. Contrairement à ce que pas mal de gens le disent. Alors, où est-ce que la loi nous conduit-elle? Et la Bible elle-même, en Galates chapitre 3, verset 24, à la page 764, nous le répond. Cette loi, selon la Bible, dit, a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La loi de Dieu a un but très précis. Elle doit nous conduire au Seigneur Jésus-Christ. Il doit nous conduire, la loi, à celui qui pourra nous pardonner, nous purifier, nous justifier. Mais sans la loi, comment pouvons-nous trouver la direction? Alors, la loi n'a pas ce pouvoir de pardonner les transgresseurs. C'est pour cela que nous sommes sauvés seulement par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais pourtant, la loi n'a aucune valeur, non. Mais elle les conduit à Jésus-Christ, qui lui dit, je prendrai ton péché et je te le porterai moi-même si tu m'acceptes comme ton substitut et ton garant. Reviens à l'obéissance et je t'imputerai ma justice. Donc la loi n'a pas le pouvoir de sauver, mais la loi est celle qui nous conduit au Sauveur. Celle qui nous donne, n'est-ce pas, la direction, celle qui nous donne l'absolu, celle qui nous révèle si nous sommes ou pas en Christ. Alors, quelle est-elle l'attitude de Jésus lui-même vis-à-vis de la loi? Quelle était la pensée du maître de notre exemple? Lui-même, il dit en Jean 15, 10, bien comme Jean 14, 15, à la page 700, ceci. Voilà ce que Jésus dit. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père. Autrement, il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Alors, incroyablement, contraire à ce que d'autres prêchent et enseignent, l'amour ne nous laisse pas maintenant vivre sans l'obéissance, plutôt le contraire. Plus nous aimons, plus nous serons obéissants. Sinon, imaginez ce soir, en arrivant à la maison, votre mari ou votre épouse dit, ma chérie, mon cher, je vous aime plus que jamais, mais j'ai un petit secret à vous raconter. J'ai encore 4 maris ou 4 femmes à qui je fréquente. Mais soyez tranquille, vous êtes le numéro 1 ou la numéro 1 de mon cœur. Est-ce que cela serait suffi pour vous? Vous seriez content de dire, tiens, mais mon, quel beau mari j'ai. Je suis le premier, la première de son cœur. Ne vous inquiète pas avec les autres 4 ou les autres. Est-ce que c'est comme ça? Non. Nous comprenons cela très bien dans notre vie. Si nous aimons les uns les autres, nous serons quoi? Fidèles. Nous allons obéir, n'est-ce pas, à notre engagement. Et si nous n'obéissons pas ou si nous ne sommes pas fidèles, qu'est-ce que cela se passe? Même au niveau de la justice humaine. Le divorce, la séparation, l'adultère, n'est-ce pas ça? Pourquoi ne pas comprendre que cela, c'est la même chose vis-à-vis de Dieu? Si nous l'aimons, nous allons obéir ses commandements. Et pourquoi? Parce que ces commandements, ces lois, sont exactement l'absolu dont nous avons besoin. Le GPS qui dirige, qui donne direction, n'est-ce pas, à notre vie. Quelle est-elle l'attitude de Jésus aussi vis-à-vis de la loi? Matthieu 5, 17, il dit, « Ne croyez pas. » Jésus lui-même, il dit, contraire à ce que disent les autres. Jésus le dit dans sa parole, « Ne croyez pas que je suis venu pour abolir, pour annuler, n'est-ce pas, la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, dit-il, mais pour accomplir, pour obéir. Sinon, tiens, est-ce que Christ allait même à la croix pour se donner la vie pour nous? La croix, mes amis, c'est le plus profond et le plus fort argument en faveur de la loi. La croix nous dit clairement que pour le Christ, la loi de Dieu est encore en vigueur. Est-il possible donc changer la loi de Dieu? Voyons ce que Christ lui-même dit en Matthieu 5, 18. Il dit, « Car je vous l'ai dit, en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, et même qu'il a plu beaucoup aujourd'hui, mais le ciel est toujours là, n'est-ce pas? Et la terre est toujours sous nos pieds, n'est-ce pas? Mais c'est Dieu. » Donc la terre n'a pas changé. Donc il dit, « En tant que la terre et le ciel ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de la lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. » Iota, c'était, n'est-ce pas, le symbole le plus petit de la langue juive. Alors, par sa nature, la loi de Dieu est immuable. Elle est une révélation de la volonté et du caractère de son auteur. La loi, c'est comme une photo. Je porte toujours avec moi, mes amis, dans la Bible, des photos de ma famille. Ici, j'ai une photo de mon enfant et de ma fille. Cette photo révèle qui? Qui est mon enfant? La loi, c'est la photo de Dieu qui révèle son caractère. Si nous parlons contre la loi, nous sommes en train de dire la vérité que nous parlons contre qui? Dieu, parce que la loi de Dieu reflète simplement son caractère. Ces deux grands principes sont l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Alors, mes amis, si vous ouvrez la Bible aujourd'hui, et je vous invite à le faire maintenant dans les livres d'Exode, chapitre 20, versets 3 à 17, vous allez trouver là les 10 commandements, la loi de Dieu. Et vous allez voir que les premiers 4 commandements parlent à propos de notre amour et de notre obéissance envers Dieu lui-même. C'est pour cela que Dieu a eu
quand on dit table, c'est déjà un peu en français, n'est-ce pas? C'est pour cela qu'en portugais et en anglais, parfois, nous avons l'avantage, n'est-ce pas? Parce que ça, ce n'est pas du table, c'est du quoi? Du rocher. Donc, ce sont des tables du rocher ou des cailloux, comme vous voulez, n'est-ce pas? Alors, sur la première à gauche, 1, 2, 3, 4, les 4 commandements qui parlent à propos de notre amour vers Dieu. 5, 6, 7, 8, 9, 10 qui parlent de notre amour vers les prochains. Et je vous dis qu'encore même dans les sociétés les plus sécularisées, matérialisées, cela est encore une vérité. Ou croyez-vous que vous aimeriez habiter à côté d'un voisin qui ne croit plus au commandement de Dieu? C'est-à-dire, voler n'est plus mauvais. Alors, garez-vous à laisser votre belle Peugeot, n'est-ce pas, 500, je ne sais pas quoi, devant la maison de ton ami, puisqu'il n'est plus mauvais, alors il va faire quoi? Voler n'est plus mauvais, il va faire quoi? Garez-vous avec votre femme, parce que si votre voisin ne croit plus que c'est une transgression, le septième commandement, il ne faut pas adultérer, aussitôt vous quittez votre maison, le voisin va frapper à votre porte et dire, « Madame, je suis là. » Est-ce que vous croyez véritablement qu'il ne faut plus obéir à la loi de Dieu? Non, pas du tout. Mais pourtant, il y a des gens qui font croire aux hommes, n'est-ce pas, qui, à la fin, la grâce et la foi nous ont libérés de l'obligation de faire quoi? Non seulement cela n'est pas acceptable au niveau philosophique, au niveau pratique, comme je viens de vous dire, mais même la Bible n'accepte pas ça. Donc je vous invite à lire avec moi la page 736, Romains chapitre 6, 14 et 15. Celui-là, je n'ai pas écrit parce que j'aimerais que vous soyez forcés à ouvrir votre Bible maintenant. Et avec moi, lire Romains chapitre 6, versets 14 et 15. Donc, Romains s'y trouve dans le Nouveau Testament, à la page 736, si vous avez la Bible que nous sommes en train de vous emprunter chaque soir. Et vous lisez là, donc, les versets 14 et 15. Vous y êtes là? Pouvons-nous aller d'avance? Voilà ce que l'apôtre Paul va dire. D'abord, 14, il dit quoi là? Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Et vous dites, tiens, tiens, pasteur, voilà ce que je viens de dire. Nous ne sommes plus devant quoi? La loi, nous sommes maintenant devant là. Mais mes amis, au verset 14, c'est sur le verset quoi? 15. Et parfois nous oublions les 15 et nous gardons seulement les 14. Et c'est là le problème de pas mal de religions aujourd'hui. C'est l'interprétation de la Bible. Me plaît plus le verset 14 que le 15. Donc je garde le 14 et j'oublie les 15. Mais si nous allons suivre les conseils de Dieu, qu'est-ce que dit le 15? Il dit là, quoi donc? Pécheriez-nous parce que nous sommes en sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là, dit Paul. Il dit clairement, encore la transgression de la loi, c'est quoi? Péché. La loi, n'est-ce pas, nous impose son obéissance. Et la grâce, comme la foi, ne nous efface pas les péchés. Comme hier, comme aujourd'hui, comme demain. La transgression de la loi de Dieu est quoi? Péché. La loi n'est pas maintenant libérée à cause de la foi et de l'amour ou quoi que ce soit. Plus nous aimons, plus, n'est-ce pas, nous serons en train d'obéir Dieu. Donc, à la fin, je vous demande, que nous reste-t-il faire? Et encore, nous prenons les conseils de Dieu dans sa parole, dans le psaume 119, 44. À la page 408, et elle dit là, je garderai ta loi constamment, à toujours et à perpétuité. Hier, aujourd'hui, et à jamais. Les prophètes, les psalmistes nous invitent à faire quoi? Garder la loi du Seigneur. Alors, quelques petites questions pour votre réflexion. Quelle est la relation entre la connaissance, l'amour et l'obéissance? Jean lui-même, n'est-ce pas, il nous donne la réponse en 1 Jean 2, 3 à 5. Je vous donne la page, je n'ai pas le verset là. Je vous invite à ouvrir la Bible avec moi pour que nous puissions lire ensemble. 1 Jean, le premier épître de Jean à la fin de la Bible, à page 805. 1 Jean 2, verset, chapitre 2, pardon, verset 3 à 5. Nous y sommes? Voilà ce qu'il dit et comment nous pouvons mettre ensemble cette pensée-là. Il dit là, si nous gardons ces commandements, Par là, nous savons que nous l'avons connu. Connaissance. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Alors, quelle est la relation entre connaissance, l'amour et obéissance? Quand nous connaissons quelqu'un et nous passons à l'aimer davantage, quelle est notre relation vis-à-vis de cette personne? Allons-nous être infidèles à cette personne? D'abord, je vous pose la question. Pouvons-nous aimer quelqu'un que nous ne connaissons pas? Non. Mais au fur et à mesure que nous connaissons Dieu, nous connaissons le Christ, qu'est-ce qu'il est né dans notre cœur? L'amour. Pourquoi? Parce que l'apôtre lui-même l'avait dit. Puisqu'il nous a aimés d'abord. Mes amis, si vous êtes mariés comme moi je le suis, vous allez maintenant comprendre ce que je vous dis. N'est-ce pas vrai? Chez un couple, il y a eu toujours celui qui a aimé d'abord. N'est-ce pas vrai? Toujours chez la vie d'un couple, il y a celui qui a aimé d'abord. Alors, nous avons aimé parce que quelqu'un nous a aimé premièrement. Et puisque Dieu nous a aimé premièrement, il s'est fait connaître. Quelle est notre seule réponse d'amour vis-à-vis de Dieu? La fidélité, l'obéissance. Non parce que l'obéissance nous casse les pieds et la vie, mais parce que nous savons que tout ce qu'il va nous demander sera dans le sens de l'amour, de notre propre bien. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous voulons vous inviter à prendre une décision. Nous avons parmi nos gens ici des cartes, n'est-ce pas, des décisions. Et nous aimerions maintenant que ceux qui ont ces cartes puissent vous apporter. Il y a certaines questions qui sont là posées. Et si vous aimeriez dire oui ou non, vous pouvez ticker ces questions-là. Alors, nous allons les distribuer tout de suite. Et vous allez réfléchir alors que nous allons écouter une musique spéciale. Et en finissant cela, je serai là à la porte en vous attendant et vous pouvez remettre cette carte de décision à ceux qui sont à la porte pour la recevoir. Donc, j'aimerais que chacun puisse en recevoir une de ces cartes, lisez et répondez aux questions. J'aimerais avoir une aussi pour aider aux gens. Alors que vous recevez, vous pouvez utiliser aussi les bics que nous distribuons. Voilà ce que je vous propose. Mon désir. Croyez-vous que seul Jésus-Christ peut nous donner le salut? Si vous croyez, vous allez tiquer là. OK? Au fur et à mesure que vous allez les recevoir, vous allez les tiquer. Si vous croyez que seul Jésus peut nous donner le salut, si vous êtes d'accord, vous tiquez là. Aimeriez-vous qu'il écrive sa loi sur la table de vos cœurs? Si ce soir vous avez compris, n'est-ce pas, l'obéissance, les absolus, la loi de Dieu, la valeur de son commandement, et vous aimeriez que Dieu écrive dans votre cœur sa loi, vous tiquez là, comme une requête à Dieu. Souhaiteriez-vous recevoir encore davantage d'autres études de la parole de Dieu? Si vous aimeriez, tiquez là aussi. Voulez-vous qu'on prie pour vous? Nous allons prier, n'est-ce pas, pour vous en spécial. Donc, vous tiquez là, laissez votre nom. Comme ça, nous allons prier Dieu, demandant qu'il bénisse votre famille, votre foyer, vos enfants, votre travail, votre santé. D'accord? Et finalement, si vous aimeriez que nous puissions vous rendre visite, tiquez là aussi. Et nous allons nous-mêmes, ou l'un de nos pasteurs, rendre visite chez vous pour aller dire un bonjour et faire une prière avec vous en demandant à Dieu de bénir votre foyer aussi. Donc, voilà, je crois que vous êtes en train de recevoir avec les bics. Écoutez la musique et au fur et à mesure que vous allez l'écouter, répondez. Et après, à la sortie, je serai là pour vous dire un bonsoir et vous pouvez rendre cette carte à ceux qui vous ont donné ce soir. Demain, nous serons encore ici ensemble pour encore un sujet passionnant. Je vous invite à venir davantage Parce que nous allons voir comment Dieu nous aime tellement et comment il veut davantage que nous soyons heureux dans cette vie ici. Que Dieu vous bénisse. Déjà un bonsoir à tous et j'espère vous voir nombreux aussi demain par la grâce de Dieu.